Mermoz Mohamed Boumassa, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Certains rapports émanant des défenseurs des droits humains attestent que tous les Centrafricains, de loin ou de près, sont atteints de traumatismes psychologiques en cette période post-crise. Validez-vous ces propos ?
Merci pour la question. Quand on dit que la plupart des Centrafricains sont atteints du traumatisme, c'est aussi à raison. Juste parce que la dernière crise que nous sommes en train de vivre, tout le monde a été affecté. D'une manière ou d'une autre, à des degrés différents, on est tous traumatisés. Parce que quand on parle de traumatisme psychologique, cela se traduit par les quatre verbes que nous disons. Le verbe voir, donc tout ce que l'on peut voir, par exemple la tuerie, les viols qu'on peut exercer sur soi, ça c'est des choses qui causent du traumatisme, des choses qu'on entend. Par exemple, les détonations d'armes, des choses qu'on peut faire, par exemple les bourreaux qui violent, qui pillent, eux aussi sont souvent traumatisés. Et aussi, des choses qu'on a vécues. Par exemple, quelqu'un a été violé, ça cause de traumatisme. Donc, c'est à raison qu'on dit que la plupart des Centrafricains est traumatisé en cause du contexte dans lequel la Centrafrique a traversé durant les dernières crises. Donc, c'est pour cela que notre structure aussi essaie d'appuyer dans ce sens.
Mais de tous les cas, par quels moyens peut-on reconnaître que tel individu est affecté de traumatisme psychologique?
Merci. Il y a la confusion des fois, parce que dans la communauté, on confond le traumatisme à la folie. Parce que quand quelqu'un est traumatisé, on peut l'accompagner et la faire sortir de son état de traumatisme, il peut redevenir normal. Et là, il y a les symptômes qu'on peut reconnaître quand un individu est atteint de traumatisme. Les symptômes au niveau physique, il y a la fatigue, une perte d'appétit ou bien plus d'appétit de manger, même les désirs sexuels. Ça, c'est le signe qui détecte que la personne est traumatisée. Il y a aussi les symptômes émotionnels au niveau de la pensée. Quand la personne commence à développer certains symptômes comme l'isolement, la peur, ces aspects, quand quelqu'un commence à développer, par exemple, même la nuit, quelqu'un ne peut pas bien dormi parce que quand il se rappelle de ses souvenirs, ça le traumatise. Ça peut signifier que la personne est aussi traumatisée. Et même le fait que quelqu'un peut parler seul, des fois on pense que c'est juste la folie, mais c'est pas la folie, c'est parce qu'il y a un élément déclencheur au niveau de son psyché qui a fait qu'il réagit de la sorte. Donc avec un accompagnement, la personne peut sortir de cet état et redevenir normale.
Ceux-là qui manifestent déjà cette maladie, comment faire pour les repérer? Car il y a aussi des manifestations liées aux attaques diaboliques.
Il y a beaucoup de solutions qu'on prévoit. Le projet CIP qui veut dire le partenariat interreligieux pour l'édification de la paix en Centrafrique, qui est une composante de 5 organisations, 4 internationales et la plateforme des confessions religieuses. Donc on trouve CRS, World Vision, Islamic Relief et Edith Strauss qui se sont mis ensemble pour apporter leur contribution. Parce qu'au-delà de cette crise que nous vivons, les 3 leaders vers 2013 commençaient déjà à dire à la communauté internationale de regarder au moins la situation critique du pays, comment les gens vivaient. Et c'est à ce moment que ces organisations internationales se sont mis ensemble pour soutenir l'effort de la plateforme des confessions religieuses. Et à l'intérieur, le projet prévoit d'accompagner les organisations locales à prendre le leadership sur l'édification de la paix en Centrafrique. Comment accompagner ces gens-là à retrouver quelque chose? Ça veut dire que nous travaillons aussi sur les moyens de subsistance. Nous accompagnons les micro-entreprises en donnant des petites subventions de presque 300 à 500 dollars. Nous contribuons à mettre en place des groupes d'épargne où les femmes ou bien les hommes qui veulent se mettre ensemble, qui font des épargnes à l'interne et font des prêts à crédit à leurs membres. Et ça permet déjà aux membres à l'interne de développer leurs activités génératrices de revenus qu'ils avaient perdues durant la crise.
Mais comment arrivez-vous à offrir le service de guérison de traumatisme aux personnes atteintes de cette lésion?
Les gens, des fois, confondent que le traumatisme, c'est lié, par exemple, à la sorcellerie ou bien à la démence. Des fois, quand nous perdons les choses, perdons des personnes, par exemple, un membre de notre corps, nous pensons que la vie s'arrête là. Mais nous essayons de leur faire comprendre que la vie continue malgré les événements traumatiques. Donc, pour prévenir que la crise ne puisse pas se ressurgir dans l'avenir, nous faisons aussi la formation sur l'éducation à la paix. Et nous mettons l'accent sur, d'abord, la responsabilité personnelle, la pensée critique et l'empathie, parce que on pense comment est-ce qu'une personne peut développer sa conscience pour dire, avant de réagir, je dois évaluer la situation, analyser la situation et questionner sur la situation. Parce que souvent, on rencontre que pendant la crise, il y a beaucoup de personnes qui disent, on a été manipulé. Mais si on commence à questionner avant de mener une action, on va prendre un peu le temps d'analyser pourquoi je dois faire telle chose. Et ça permet que les gens puissent surpasser ces moments et garantir que dans l'avenir, quand ces personnes développent ces 3 capacités, ça permet de réduire la résurgence de la violence en République centrafricaine.
À travers vos actions, vous organisez aussi des formations par ciblage. Par quels moyens avez-vous identifié les bénéficiaires par endroit ?
Depuis 2016, nous avons mené plusieurs formations pour travailler dans ces localités. Nous avions développé des critères. D'abord, ces critères viennent des partenaires du projet, l'Université Palo Alto, qui avait mené des recherches d'abord pour voir l'importance et l'impact que peut avoir la formation de la guérison du traumatisme et d'éducation à la paix sur le changement de comportement et sur les processus de rétablissement de la personne humaine. Donc, à la suite de cette recherche, on a compris que les 2 formations combinées peuvent aider les gens. Et donc, on a développé des critères surtout de vulnérabilité pour comprendre tout le monde est est presque traumatisé. Mais au moins, quel type de personne est le plus traumatisé? Des personnes qui ont perdu les membres de famille, des personnes qui ont perdu leurs biens. Donc, ce type de personnes vraiment victimes et même des bourreaux. Et surtout, nous travaillons avec l'appui des organisations locales. Par exemple, OPPDCH, qui est l'un de nos partenaires avec lesquels nous travaillons pour renforcer leurs capacités. Et eux, ils peuvent identifier les gens pour nous et on vient fournir l'appui technique. Des fois aussi, dans l'arrêt pays, nous travaillons avec les antennes préfectorales de la plateforme des confessions religieuses. Parce qu'on pense que les organisations locales et les structures locales, par exemple la plateforme des confessions religieuses, sont les mieux placées qui peuvent identifier les personnes ayant plus besoin de ce type de formation. Avec cette collaboration en partenariat avec les organisations locales, on a pu faire identifier les participants et venir rapidement auprès des bénéficiaires cibles.
Monsieur, votre appui a-t-il eu de bons résultats en termes de changement de comportement dans le quotidien des bénéficiaires?
Oui, il faut reconnaître que le changement de comportement, c'est un processus. À l'issue des formations, il y a les pré- et post-tests que nous menons d'abord pour voir le degré de changement. Parce que quand les participants arrivent dans les formations, ils ont leur notion, ils ont leur compréhension de traumatisme, de l'éducation à la paix et de tous ces aspects. Nous faisons passer les pré-tests pour connaître d'abord leur connaissance sur les thématiques. Et à la fin de la formation, nous faisons aussi les post-tests qui nous permettent à la fin d'évaluer le degré de changement de ces personnes-là. Parce que déjà dans le projet, nous espérons au moins que les personnes, à la fin de la formation, puissent changer de comportement. Mais comme c'est un processus, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'à 100% les gens ont changé. Mais déjà, à travers les témoignages des participants, durant les formations, ils commencent à changer au sein de leur communauté. On croit que ces formations portent déjà fruit et qu'à la longue, ces personnes vont devenir et deviennent déjà comme un incubateur au niveau de leur communauté et pourront contribuer à ce que la paix revienne.
Vos initiatives mérite d'être pérennisé. Alors, disposez-vous des mécanismes de suivi pouvant garantir la progression de vos projets?
Pour le suivi, on travaille avec les organisations locales, mais nous, à l'interne déjà, quand on forme les gens, il y a un procédé où après quelques temps, on revient pour voir qu'est-ce qui a pu changer auprès de ces personnes-là. Donc, on essaie d'accompagner ces personnes au maximum et surtout, quand nous collaborons aussi avec les organisations locales, ces organisations locales restent comme des points focaux de notre projet auprès de la communauté et continuent à discuter avec la communauté et d'identifier d'autres besoins qu'on peut toutefois voir les possibilités. Parce qu'il faut reconnaître que mener de telles activités, les formations, nécessitent des fonds. Et pour les fonds, c'est aussi ça que nous avons besoin pour couvrir tout le territoire. Mais à travers l'accompagnement direct que les organisations locales font auprès de la communauté, on peut avoir le feedback et pouvoir maintenant comment on peut faire le plaidoyer au niveau national et international pour voir les dispositions nécessaires afin d'avoir d'autres fonds pour plus d'accompagner les centrafricains dans le besoin.
Mère Mose, Mohamed Boumassa, je vous remercie.
C'est un plaisir pour moi de vous remercier.